Bien, mais bonsoir à tous. Je vous remercie eh bien d'être venus parce que Serge Latouche enchaîne les discours, les conférences depuis hier. Et donc, c'est vrai que malgré ça, il arrive à renouveler sans cesse son public. Un public d'ailleurs totalement intergénérationnel, avec beaucoup d'étudiants aussi, des étudiants de disciplines très variées. Alors, juste peut-être pour, est-il besoin, j'ai presque envie de dire, de présenter Serge Latouche, sans doute pas vraiment, donc je vais faire assez court. Je vais juste peut-être donner quelques éléments en tant que, moi je suis historien, donc je vais vous présenter un petit peu la dimension historique de la pensée de Serge Latouche. Donc Serge Latouche, c'est quelqu'un qui est économiste d'abord, ça c'est un premier point et qui n'est pas négligeable. Hein. Donc c'est un économiste qui a produit une thèse à la fin des années 60 au Zaïre, qui était une thèse de tendance très clairement marxiste, avec une approche de rattrapage, on va dire. Le but c'était dans la théorie du développement, c'était la question du rattrapage qui était posée, du rattrapage des pays du tiers-monde. Donc ça, c'était la première étape. Et puis, il y a eu un déclic. Hein. Ce déclic se produit au Laos en 1967, si je ne m'abuse. Hein. Je me fonde sur une interview pour Éco-Rêve. Donc en 1967, où vous avez découvert des communautés villageoises où le travail, notamment, avait une place toute différente et où l'art de vivre, on va dire, était sans doute plus développé que dans le monde occidental. Et là-dessus, vous revenez en France et arrive mai 68. Alors là, c'était plutôt encourageant sur ce déclic, sur cette nouvelle orientation que prenait votre pensée. Une pensée, du coup, qui s'est à la fois cristallisée sur la critique du développement et l'épistémologie économique, notamment en intégrant une dimension anthropologique, en s'inspirant de Karl Polanyi, des travaux de Karl Polanyi, de Marshall Salins ou encore de Marcel Mauss. D'ailleurs, vous êtes un des contributeurs historiques et réguliers du Mauss, la revue anti-utilitariste. Ce n'est pas un hasard, ça date de cette époque-là. Donc on le voit, finalement, une première phase finalement critique du développement, une seconde phase finalement où vous vous interrogez aussi sur la question écologique en intégrant tout un tas de réseaux proches de la pensée, en particulier d'Ivan Illich. Ça c'est quelque chose d'important, donc c'est à la fin des années 80, dans les années 80, que vous intégrez, on va dire, cette dimension écologique à votre pensée critique du développement, et puis vous la développez. Donc il y avait d'abord, des ouvrages critiques du développement, c'est l'occidentalisation du monde, très important, où vous dénonciez la déculturation des pays du tiers-monde, et puis désormais vous avez la planète des naufragés, où là vous intégrez déjà cette dimension écologique, donc au début des années 80. Mais ce qui, on va dire, vous fait connaître aujourd'hui, tel qu'on vous connaît aujourd'hui, c'est la décroissance. Je crois que ça, c'est le terme clé. D'ailleurs, vous pourrez peut-être aussi en dire juste un mot, ne serait-ce que pour critiquer aussi ce terme. Je sais que vous avez une définition peut-être plus rigoureuse que le terme décroissance. Peut-être nous en direz-vous un mot. En tout cas, donc, ce terme décroissance qui émerge dans les années 2000 et dont vous êtes l'un des principaux porteurs, l'un des intellectuels phares. Et finalement, c'est une bannière qui a regroupé un peu tous ces courants critiques du développement et puis d'autres courants, les anti-pubs par exemple. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui on vous connaît davantage. Et finalement, quand on regarde un peu vos ouvrages, toujours il est question, c'est cette perspective de la question, c'est l'économie évidemment, qui très souvent fait l'objet de vos critiques. Néanmoins, on observe aussi que la technique peut aussi se retrouver là-dedans. D'ailleurs, vous avez écrit un ouvrage, un recueil d'essais, hommage à la pensée de Jacques Ellul, qui s'appelle La méga machine. Donc ça, c'était au milieu des années 90. Un ouvrage où finalement, à la fois, vous le citez, vous faites révérence quelque part à cette pensée de Jacques Ellul, même si ce n'est pas un de vos principaux maîtres. Il y en a d'autres, je pense évidemment à Ivan Illich, à François Partin, à Castoriadis, mais Jacques Ellul, je pense, a une place particulière. Jacques Ellul, le Bordelais, évidemment. Il y a un amphi Ellul, d'ailleurs, à Sciences Po. Donc Jacques Ellul, qui évidemment a une place dans votre pensée, même si vous en faites, évidemment, vous avez également, vous prenez vos distances vis-à-vis de ce primat de la technique chez Jacques Ellul. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai l'impression quelque part que vous développez cette question de la technique, vous la pensez davantage. Vous avez livré d'ailleurs un ouvrage, puisque vous dirigez des collections aussi d'ouvrages, hein, on ne va pas toutes les citer, mais là il y en a une sur les pionniers de la décroissance, et vous avez eh bien, écrit un ouvrage justement sur la pensée de Jacques Ellul. Et dans le même temps, finalement, ce livre, donc, Bon pour la casse, qui est en fait, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous allez en dire un mot, ou je peux peut-être juste mentionner, en tout cas, sans trop développer, je vais peut-être vous laisser davantage le faire, mais effectivement, ça part d'un documentaire de 2010 qui s'appelle « Prêt à jeter », donc un documentaire qui a eu un grand succès, diffusé sur Arte, à plusieurs reprises, tout à fait, qui, je crois, d'ailleurs, a été diffusé également à l'étranger. Hein, si je ne m'abuse, vous pourrez peut-être aussi nous en parler. Eh bien, donc, ce documentaire sur l'obsolescence programmée, et c'est de là, hein, vous inscrivant aussi dans la suite des travaux de Gilles Sled, par exemple, eh bien, que vous avez décidé d'écrire ce petit livre qui se dévore, en fait, parce qu'il est d'une... Bon, évidemment, hein, je veux dire, Serge Latouche, c'est quelqu'un qui sort un livre tous les ans, donc c'est quelqu'un qui a quand même une facilité au bout d'un moment d'écriture. Ce qui fait qu'évidemment c'est un livre qui se lit très facilement, très pédagogique, mais tout en allant aussi évidemment au fond des choses et où on retrouve un peu tous les grands thèmes de la pensée de Serge Latouche, hein, je parlais donc de la critique du développement, de l'écologie politique ou encore de la décroissance. Voilà, donc justement la question donc qu'on peut vous poser face à ce titre et face à ce livre, c'est qu'est-ce que l'obsolescence programmée?
Merci Timothée. Timothée est un vieux complice, alors je le tutoie et on est, nous sommes familiers. Alors, effectivement, on me présente généralement maintenant comme le théoricien de la décroissance. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que l'obsolescence programmée a à voir avec la décroissance ? Bien, la décroissance est à la fois à l'origine, hein, et à la conclusion de ce livre. À l'origine, parce que qu'est-ce que c'est que la décroissance ? C'est un slogan pour signifier la nécessité de sortir de la société de consommation, hein, que Vance Packard appelait société de gaspillage. Et qu'est-ce que c'est que la société de consommation ? C'est une société qui est fondée sur une triple illimitation, illimitation de la production, et donc illimitation de la destruction des ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables, illimitation de la consommation et donc nécessité de créer indéfiniment des besoins, mais comme les besoins sont limités, il faut les créer de plus en plus artificiellement, et illimitation dans, évidemment, dans la production des déchets, hein, et de la pollution de l'air, de la mer, de l'eau et de la terre. Et comme effectivement notre estomac est limité et que nous ne pourrions pas consommer indéfiniment des voitures, des machines à laver et de tout, etc., eh bien, il nous faut, cette société repose sur trois ressorts, hein, qui sont des pousses au crime, en quelque sorte, qui nous poussent à consommer tout. La publicité, évidemment, c'est le principal, et c'est pour ça que la décroissance est née à partir d'associations anti-pub. La publicité, dont l'objectif est de nous rendre insatisfaits et frustrés de ce que nous avons pour nous faire désirer ce que nous n'avons pas. Et ça marche. Le crédit, qui nous en donne les moyens, hein, ça va même tellement loin qu'aux États-Unis, ils ont inventé les crédits ninja, comme le nom des tortues tueuses japonaises. Mais ninja, ça veut dire no income, no job, no assets. C'est-à-dire, on donne des crédits pour acheter des maisons à des gens qui n'ont ni revenus, ni travail, ni patrimoine. Il faut le faire, quand même. Et comment c'est possible ? Parce que sur le mécanisme de la spéculation, on le persuade. Et ça a marché pendant un certain temps. Ça a créé cette immense bulle immobilière qui est pétée entre 2007, la crise des subprimes, et 2008, en 15 décembre 2008, la chute de la Lehman Brothers. Et puis, alors, il y a des gens qui mettent sur boîte à lettres, n'est-ce pas ? Pas de publicité, s'il vous plaît, parce que nous recevons chaque année environ 200 kilos de papier, c'est-à-dire de destruction des forêts et d'émination de dioxyde de carbone, de publicité. Mais même si nous sommes allergiques à la publicité, même si on appartient comme moi à une génération où, quand je suis parti à Paris, mon père m'a dit « surtout ne t'endette jamais », on ne prend pas de crédit, on n'achète pas à crédit, eh bien, on est obligé quand même de consommer, parce qu'il se trouve, et ça, alors ça nous amène à l'obsolescence programmée. C'est un mot, l'obsolescence programmée, quand j'en parlais la première fois, les gens... qu'est-ce que c'est cette bête-là, ce truc-là, etc. C'est un mot effectivement étrange, pas très familier, mais en revanche, la chose nous est tous familière. Nous avons tous l'expérience qui d'une machine à laver, qui d'un frigidaire, qui d'un téléviseur, pour moi d'un ordinateur, qui tombe en panne. Et nous avons tous l'expérience aussi d'aller chez le négociant, le marchand. Et alors là, le discours est généralement maintenant à peu près « Ah non, ça, c'est, maintenant il y a de l'électronique là-dedans, on ne répare plus. Avant c'était mécanique, on pouvait réparer, maintenant on ne peut plus. » Bon, donc poubelle. Ou bien « Oui, mais il faudrait faire venir les pièces détachées, parce qu'il n'y en a pas, il n'y a jamais de pièces détachées, il faut les faire venir. Bon, ça va vous coûter assez cher. » Ça peut peut-être même vous coûter plus cher que d'en racheter une neuve. Ou bien, bon, oui, on peut réparer, il faut changer le disque dur, ça va vous coûter 150 euros, bon, mais je vous signale que dans 3 mois, c'est la carte mère qui va tomber en panne, ça vous coûtera de nouveau 150 euros. Finalement, pour 350 euros, vous avez un ordinateur neuf, ça vient de Chine, c'est fabriqué par des gens qui sont payés, rien du tout, et voilà. Et c'est comme ça que 800 bateaux partent des États-Unis chaque mois, bourrés jusqu'à la gueule d'ordinateurs et de téléphones portables, qui contiennent des métaux rares, qui pourraient rendre service, qui manqueront dans quelques années, et qui, au lieu de rendre service, eh bien, vont polluer les nappes phréatiques au Nigeria ou au Ghana, où ils sont déchargés sauvagement et créer des cancers aux enfants qui veulent récupérer le métal et qui font brûler les coques et qui absorbent de la dioxine. Bon. Et alors donc, voilà, c'est ce troisième moteur de la société de consommation que j'avais signalé dans le pari de la décroissance, etc., mais sans plus. Et c'est à débarquer dans ma vie Cosima Danoritzer, donc cette réalisatrice allemande qui vit à Barcelone, qui m'a empoisonné l'existence pendant 3-4 ans, le temps qu'elle a mis à faire son film, qui m'a convaincu qu'il fallait que j'avais des choses à dire sur le sujet, qui a fait ce film donc, sur Arte, donc qui dure 45 minutes, non, 1h30, mais qui doit avoir 200 ou 300 heures de rush. Bon, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais il faut en faire un livre. Et elle était trop occupée, on n'a pas pu faire le livre. Ensuite, je me suis rentré en contact avec Gisley. Enfin bon, et finalement, j'ai fait ce livre. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que l'obsolescence programmée? Quel est son domaine? Et comment on peut réagir, lutter contre? Alors, le mot « obsolescence » lui-même est un mot un peu étrange parce qu'il est très récent en français. Il daterait des années 50 dans le petit Thémis de Raymond Barre. Bon, il existait avant, mais on n'en trouve pas. Donc, c'est un mot qui vient du latin « obsolescence »,« obsolescence », donc participe gérondif du verbe obsolérer, hein, et qui veut dire tomber en désuétude, bon, et qui apparaît en Angleterre, c'est normal, la révolution industrielle, il apparaît en 1828 en Angleterre, et il débarque chez nous avec un bon siècle de retard. En revanche, nous avions l'adjectif obsolète depuis le XVIe siècle, qui vient d'obsolétus, le participe passé, tomber en désuétude, et ça c'est assez intéressant parce que Cicéron parle d'un homo obsoletus, un homme obsolète, bon, ça veut dire un homme souillé, mais ça renvoie, finalement, ça fait un écho plus récent, on nous parvient avec, à travers le fameux livre de Gunther Anders, pas l'obsolescence de l'homme, hein, puis on rejoint. Bon, nous y reviendrons. Alors, donc, l'obsolescence, c'est d'abord l'obsolescence technique. Hein. C'est la seule que connaissent les économistes, enfin, dans les manuels. Alors, l'obsolescence technique, c'est vieux comme l'homo faber. Hein. Je viens d'aller tout à l'heure au musée Aquitain, et on voit très bien comment les haches de bronze rendent les haches de pierre obsolètes, hein, et comment celles-ci sont rendues obsolètes par les haches de fer. Bon, mais avec le progrès technique, ça s'accélère au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, l'obsolescence technique devient de plus en plus rapide. Une deuxième forme d'obsolescence qui, elle, remonte sans doute avec les sociétés à état au néolithique, hein, c'est ce qu'on peut appeler l'obsolescence psychologique ou symbolique ou esthétique. C'est le phénomène de la mode. Et donc là, cette mise au rencard des objets n'est pas due à leur usure réelle, hein, elle est due à leur usure symbolique ou psychologique ou esthétique. Et là, les femmes connaissent bien, mesdames, vous connaissez tous ça, vous mettez les jupes longues au rencard l'année où les jupes courtes deviennent à la mode. Bon, mais les hommes aussi, pour les chaussures, pour les pantalons à pattes d'éléphant, quand ça dépend, bon, etc. Et finalement, tout devient, on le verra, objet, peut devenir plus ou moins objet de la mode. Hein, il existait déjà des modes vestimentaires, des modes de soins du corps, etc., et des modes ornementales chez les Romains. Nous avons connu, nous, aussi dans le mobilier, des styles Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVII, Louis XVIII, Louis XIX, XX, XX, etc., ça continue. Bon, donc, c'est pas totalement nouveau, mais là encore, effectivement, ça s'accélère avec la société moderne et la société industrielle. Et puis, il y a cette troisième forme qui est l'objet propre du livre, l'obsolescence programmée, planifiée, planned obsolescence, ou peut-être plus juste de l'appeler built-in obsolescence, qui est l'obsolescence incorporée. Hein. Et ça, c'est beaucoup plus, ça apparaît par hasard en 1932, hein, dans un petit opuscule publié à compte d'auteur d'un milliardaire d'origine juive ukrainienne qui vivait aux États-Unis, qui était philanthrope après avoir fait fortune dans la spéculation immobilière, vous voyez, il n'y a pas de contradiction, et qui, en bon philanthrope, donc, au milieu de la crise, a sa solution. Vous savez, les milliardaires philanthropes, comme le directeur du Figaro, comment il s'appelle, bon, ils ont toujours leur solution. Alors lui, il a publié son... Mais évidemment, ça n'a pas trop de succès, donc il publie à compte d'auteur, publié un petit bouquin qu'il a adressé à Roosevelt, qui l'a mis à la poubelle probablement, donc qui s'appelait « Ending the Depression through planned obsolescence ». Donc, mettre fin à la crise en planifiant l'obsolescence. Donc il n'avait pas du tout conscience d'avoir inventé un nouveau concept. Il disait simplement que ce phénomène d'obsolescence, hein, que les économistes appellent aussi, c'est pas inintéressant, appellent usure morale par opposition à l'usure physique réelle, c'est l'usure morale puisque l'objet est toujours en bon état, mais on le met au rencard parce que pour des raisons morales et non pas physiques. Et donc ce petit opuscule, on l'a publié très récemment, il est aussi en bas à la librairie. Hein, et en anglais d'abord, l'original, la copie de l'original, en français, et puis alors j'ai fait une assez longue introduction qui est en fait un chapitre complémentaire en quelque sorte de bon pour la casse, hein, une annexe. Bon. Alors en 1932, il pense tout simplement, plaine le terme qu'il utilise, évidemment c'est pas un hasard, tous les pays sont en crise sauf l'Union soviétique. Et l'Union soviétique met en marche les plans quinquennaux, donc la planification devient à la mode à l'époque, et le New Deal de Roosevelt sera une forme de planification, la planification à la française, aura ses beaux jours. Et donc il dit, bon ben, pour sortir de la crise, il faut planifier l'obsolescence. Alors il institue un ministère de l'obsolescence, qui détermine, avec des ingénieurs qui vont déterminer, bon, les gens doivent mettre au rencard leur voiture, même leur maison aux États-Unis, même la maison. Alors, la durée maximum d'une voiture, ça doit être 2 ans, d'une maison, 10 ans, d'une machine à laver, 2 ans, etc. Bon, tout est déterminé. On va dans un bureau, on rapporte sa machine, sa maison, tout ça, et on vous donne un bon pour en acheter une nouvelle. Hein, et si vous n'achetez pas une nouvelle et que vous ne mettez pas le machin, on vous donne une amende, au contraire. Hein. Et au fond, il avait inventé ce que les ministères de l'économie ont mis en œuvre depuis, hein, pour les voitures.
La
prime à la casse. Voilà, la prime à la casse. Donc, il a généralisé la prime à la casse. Bon, et il l'avait bien anticipé. Alors, ce mot a eu un grand avenir ensuite, donc voilà. Mais la chose, elle, la chose existait, alors elle a existé depuis aussi, d'un certain point de vue, depuis toujours, enfin depuis que l'homme est cupide, et comme il a toujours été cupide, depuis où il a pu exercer sa cupidité, n'est-ce pas, sous la forme de ce qu'on appelait l'adultération des produits. Alors c'est intéressant parce que c'est toujours actif, c'est même très d'actualité. C'est pas l'adultération des produits, ça consiste à mettre de la lasagne mettre de la viande de bœuf dans la lasagne, hein, ou à mettre du silicone industriel dans les implants mammaires. Alors, ça coûte moins cher. Alors, mais il y a des formes d'adultération parce qu'on comprend très bien que pour un capitaliste un peu avide, qui veut âpre au gain, qui veut gagner un peu plus, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'il mette des matières premières qui coûtent moins cher, ou bien qu'il en vende plus. Alors, si on peut faire les deux à la fois, c'est bien. C'est ce qu'on fait maintenant pour les bagnoles. On met des saloperies dans les détails des bagnoles, etc. Donc, ça use, on est obligé de renouveler, mais ça coûte beaucoup moins cher. Donc, on demande aux fournisseurs, aux sous-traitants, on fait des contrats, on détermine, on se dit, bon, c'est pas la peine que vous nous mettiez des batteries qui durent 10 ans, parce que les gens ne garderont pas leur voiture plus de 5 ans. Donc, mettez-moi une batterie qui coûte pas trop cher, bon, etc. Et donc, les ingénieurs de l'industrie automobile m'ont expliqué que leur mission à l'heure actuelle, dans leur domaine, etc., c'est de trouver des moyens pour économiser 10 centimes sur telle pièce, 5 centimes sur telle autre. Et l'autre moyen, évidemment, c'est d'en vendre plus. Et pour en vendre plus, souvent, si c'est moins solide, ça, on est obligé de renouveler. Donc, vous voyez. Alors, au 19e siècle, tous les socialistes utopiques dénoncent ça, l'adultération des produits. Ils expliquent très bien ça. William Morris, qui a écrit un petit bouquin, L'ère de l'ersatz, La Fargue, etc. Et qu'on met beaucoup de. Et Marx le cite dans Le Capital aussi. On met les fabricants de textiles. Comme le coton, ça coûte cher, on met beaucoup d'amidon et peu de coton, donc les chemises, c'est comme les chemises actuelles, donc ça suce très vite, il faut renouveler plus souvent et ça coûte moins cher à fabriquer. Donc tout bénef. Mais l'obsolescence programmée au sens strict, donc c'est le fait de mettre dans le produit un élément de défaillance pour forcer l'acheteur à en renouveler la consommation. Et alors, c'est très difficile de prouver cette affaire-là, de prendre le fabricant la main dans le pot à confiture. Bon, c'est arrivé 2-3 fois dans l'histoire de l'industrie où vraiment. Bon, la première fois où vraiment ça s'est fait, c'est 1924. À Noël 1924, sous l'impulsion de General Electric, les fabricants d'ampoules se réunissent à Genève et forment un cartel qui a été bien documenté, étudié, le cartel Phébus. Et ils disaient, c'est insupportable de faire des ampoules inusables. Alors, vous, pour la petite histoire, vous avez une ampoule fabriquée en 1896, mise en œuvre en 1902 dans la caserne des pompiers de Livermore et qu'on n'a jamais éteinte depuis et qui est toujours filmée. Si vous regardez sur Internet, vous pouvez voir l'ampoule qui marche toujours, elle est filmée par webcam, à Livermore, donc, et c'est une des scènes du film, puisqu'on assiste au 100e anniversaire de l'ampoule, ils font une grande fête pour fêter les 100 ans de l'ampoule. Bon, mais ça, c'est insupportable, imaginez, si toutes les ampoules devaient durer aussi longtemps, les fabricants d'ampoules n'auraient plus qu'à mettre les clés sous la porte, on achèterait son lot d'ampoules pour la vie, et puis c'est tout. Bon. Et donc, en 1924, ils décident de ramener la durée de vie des ampoules, qui à l'époque était 2000, 3000 heures, à 1000 heures. Donc, ils font. Et en plus, ils en font un argument de vente en disant nos ampoules sont des ampoules solides, elles durent 1000 heures. Alors qu'avant, elles duraient 2000 heures. Bon. Et avec des amendes pour ceux qui ne respectent pas le cartel. C'est le cas le plus flagrant. Bon, il y en a un deuxième qu'on voit dans le film, c'est les banylons. On voit comment les premiers banylons pouvaient tracter une voiture. On dirait une voiture avec un banylon. Bon, les banylons de troisième, quatrième génération, non, c'était fini. Et puis, il y a le cas de l'iPod 4 d'Apple. Alors ça, c'est un procédé qu'on retrouve à l'heure actuelle, qui est plus subtil. C'est les produits sont en général plus complexes que les ampoules. Et donc, dans les produits, on associe des trucs. Alors, si on associe généralement, on démonte. Mais maintenant, les fabricants, et l'une des formes pour faire l'obsolescence programmée, c'est de rendre indécomposables les produits. Et par conséquent, Apple avait imaginé de faire son iPod avec une batterie dont la durée de vie était 18 mois, hein, mais qu'on ne pouvait pas dissocier de l'ensemble, il fallait racheter un nouveau truc. C'était un peu trop gros. Et donc, quelques consommateurs se sont rebellés. Et aux États-Unis, comme ils ont la chance que nous n'avons pas d'avoir les class actions, c'est-à-dire qu'il suffit d'un ou deux consommateurs pour que l'ensemble de tous les consommateurs puissent bénéficier du procès, ils ont engagé une procédure contre Apple. Et comme ça se passe aussi en général aux États-Unis, quand les fabricants, les industriels sont pris la main dans le pot à confiture, ils négocient. Hein, ils négocient comme Goldman Sachs a négocié pour 750 millions de dollars, a négocié que la justice abandonne ses poursuites pour avoir à la fois spéculé et vendu aux gens pour engendrer la crise. Et on a sacrifié un petit trader français qui, comme un connard, se vantait de tromper ses clients. Bon, mais alors donc Apple a préféré arroser, payer très cher et rentrer dans les rangs. Bon, mais à part ces cas-là, c'est très absolument difficile. Alors ça s'est développé un des moments importants qu'on peut repérer dans l'histoire de ce phénomène, c'est la lutte entre Ford et General Motors. Donc, et ça, c'est très intéressant parce que c'est le conflit de deux cultures et qui montre que ce n'est pas seulement parce qu'on a affaire à des capitalistes et à des industriels, c'est plus compliqué que ça. Henry Ford a une culture d'ingénieur et il est fier de ce qu'il fabrique. Il fait la Ford T en 1902, je crois, hein, et il cherche à faire une voiture solide, durable. Hein, il a la mentalité du pionnier. Hein, il dit, bon, les agriculteurs, les farmers américains, hein, ils transportent des patates dans leurs bagnoles, etc., ils veulent du bon matériel. Hein. Alors, la Ford T, elle est inusable, hein, elle est fantastique. Si elle ne part pas, vous donnez un coup de pied dedans et ça marche. Hein. Bon, pas fragile, et il en produit des millions et des millions pendant une vingtaine d'années. Bon. Ça ne fait pas les affaires des concurrents, bien sûr, elle n'a pas de concurrent, elle est la seule. Hein. Sur le marché, elle domine le marché. General Motors embauche un designer, pas un ingénieur, un designer, Alfred Sloan, un designer de génie. Et Alfred Sloan, qui est responsable du département Chevrolet, se dit « Je ne battrai pas Ford sur la qualité technique, hein, mais je vais le coincer sur le look. Hein. » Et donc, la Ford, elle n'était pas très sexy, Ford T. Hein. D'abord, une des plaisanteries de mauvais goût d'Henry Ford, c'était de dire « Ma voiture, vous pouvez la choisir de toutes les couleurs que vous voulez, pourvu qu'elle soit noire. » Alors, Sloan fabrique des Chevrolet rutilantes, avec plein d'enjoliveurs, hein, très sexy, ça plaît beaucoup aux dames. Il cherche sciemment d'ailleurs à conquérir la clientèle féminine qui boudait la Ford, parce que la Ford, en plus, il fallait la démarrer à la manivelle, c'est pas pour les femmes, ça va pour les gros farmers, mais pour les ladies, bon. Alors, il sort un modèle nouveau tous les ans, comme les jupes. C'est ce qu'on a appelé la culture de Detroit. Et donc, ça a été le démarrage, donc, dans les années 30. Alors, il y a une rivalité, un conflit pendant des années entre les deux personnages, leader de l'industrie automobile, qui est même la base de la prospérité américaine. Culture de l'ingénieur contre la culture de designer. Ford résiste. Il dit « Les Américains ont du bon sens ». Bon, c'était vrai des générations de farmers, ça l'était de moins en moins après. Et donc, il résiste pendant une dizaine d'années, puis les chiffres de vente baissent. À la fin, il capitule et il fait comme son concurrent. Il change de modèle tous les ans ou tous les deux ans et il adopte la rage au cœur. Il adopte cette culture qu'on a appelée par la suite la culture de Detroit aussi, mais la culture du jetable. Et pour coloniser l'imaginaire des Américains, qui avaient quand même, qui étaient les faveurs pilgrims, avaient une mentalité puritaine, ascétique, ce n'étaient pas des consommateurs et des gaspilleurs nés, ça a été difficile, il a fallu toute une opération, c'est là que la publicité est un moteur essentiel, mais ça a été un moteur aussi pour programmer l'obsolescence. Et donc il y a eu une bonne vingtaine d'années là, pour inculquer l'ère du jetable. Alors le jetable en lui-même, il est apparu très tôt aux États-Unis, pour des raisons techniques, en fait, parce qu'il est apparu dans le domaine surtout des soins corporels. Et là, on le comprend parce qu'il y a aussi des motifs hygiéniques. Donc, la première forme, les premières apparitions du jetable, 1872, aux États-Unis, il y a déjà, on produit 160 millions, 150 millions de cols et de manchettes jetables. Alors, ça, c'est typiquement américain, mais on voit ça dans les films de Chaplin. Les Américains, bon, beaucoup d'émigrés célibataires, il n'y a pas de petite femme à la maison pour laver le linge et le repasser. Donc, mais au boulot, il faut que ça soit impeccable. Bon, alors, on a une chemise en coton, qui peut apparaître propre à peu près. Le col, par contre, c'est les manchettes, c'est ça qui est le plus faible. Alors, on attache avec un bouton un col en papier, qui présente bien, et des manchettes en papier, on voit ça dans les films, les manchettes qui se détachent, et donc il y a une consommation très forte de manchettes, etc. Un des héros de l'histoire industrielle américaine, King Camp Gillette, invente déjà en 1895 le rasoir jetable, c'est-à-dire d'abord les lames jetables, alors avant c'était le coupe-choux, qui ne jetait pas, qu'on mettait aux mains, les lames qu'il faut jeter, et puis ensuite le rasoir, c'est tout le rasoir qu'on jette, faut pas être mesquin quand même. Bon, le rasoir jetable, et pour la petite histoire, et là on comprend qu'il y a des raisons hygiéniques qui font qu'on préfère quand même le jetable, les préservatifs, à partir du moment où on a développé la technique du latex, on abandonne les préservatifs inusables et recyclables indéfiniment pour bon. Même chose, petit à petit. Alors là, c'est quand même intéressant parce que la guerre s'en mêle. Pendant la guerre, il y a beaucoup de blessés. Et les blessés, il faut de la cellulose, des cotons cellulosiques, etc., pour les panser. À la fin de la guerre, les producteurs de cotons cellulosiques, bon, ils se trouvent avec des stocks énormes. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Les femmes ont des besoins périodiques. Elles utilisent des vieux chiffons, des serviettes, c'est pas très hygiénique, etc. Serviettes hygiéniques, Tampax, et donc on invente la serviette jetable à ce moment-là, dans cette période. Mais donc ça reste pendant très longtemps limité, et puis alors dans les années 60, enfin même avant, les années 50, alors là c'est l'explosion, tout devient jetable, et... Le premier qui a écrit sur l'obsolescence programmée, il n'y a pas beaucoup de, si vous cherchez sur l'obsolescence programmée, en dehors de cet excellent petit livre qui est récemment sorti, vous n'avez pas une bibliographie énorme, vous avez deux livres. Le premier, un peu ancien, 1960, et du grand Vance Packard. On connaît surtout Vance Packard pour son livre « Contre la publicité, la persuasion clandestine », mais il a écrit un livre qui est très, très beau sur l'obsolescence programmée, qui s'appelle « The Waste Makers », donc « Les fabricants de déchets », et qui a été traduit en français sous le nom « L'ère du gaspillage ». Et quand il a travaillé sur ce livre, il a interrogé la responsable d'une grande association de consommateurs américains, disant, bon, qu'est-ce qui n'est pas sujet à l'obsolescence programmée, qu'on ne doit pas jeter, qu'est-ce qui n'est pas... Et la femme lui dit, bon, je ne vois guère qu'un objet, le piano. Donc, tout à peu près, et même les maisons aux États-Unis, les maisons sont jetables, Là, cette petite différence avec l'Europe, on n'a pas, on n'est pas encore vraiment, malgré Bouygues, on n'est pas encore entré dans la culture de la maison jetable. Et même avec Bouygues, c'est quand même du béton, c'est pas du carton-pâte. Donc, même si ça se fissure pour les centrales nucléaires, c'est quand même pas encore tout à fait du jetable. Bon, alors l'ère du jetable, donc c'est voilà. Et maintenant, cette culture, alors elle a envahi tout. Hein, et même dans un domaine qui semblait inaccessible, parce que le jetable, c'est donc transformer des biens, on appelait des biens durables, en biens consomptibles qui se dévorent pas comme la bouffe. Hein. Alors, la bouffe en soi n'est pas jetable, bien sûr, mais à partir du moment où elle est industrialisée, elle obéit aussi à la même logique du jetable, puisque le terme pour désigner donc le... la limite de durée du produit, def dating, c'est la date de péremption. Donc tout est sujet à la date de péremption. Votre ordinateur a un dating de 3 ans, votre téléphone portable de 2 ans, mais vous le jetez au bout de 18 mois. Enfin, vous le mettez au rancard au bout de 18 mois parce qu'il y a un nouveau modèle plus performant, bon, etc. Alors, là, on a assisté récemment, enfin, au fond, l'invasion du jetable et donc de l'obsolescence dans le domaine alimentaire, de la production alimentaire, à cause de cette révolution dans les pratiques qui est apparue à la fois par le développement des emballages plastiques, le conditionnement lié au développement de l'agriculture productiviste, donc avec pesticides et engrais chimiques, hein, et production de masse, chaîne de supermarchés, grande distribution, donc chaîne du froid, invasion, globalisation, mondialisation, donc invasion de fraises d'Afrique du Sud au mois de décembre, etc., donc des transports, des conditionnements de toute nature. Et à ce moment-là, auparavant, les gens qui s'alimentaient dans le petit commerce du coin, qui lui-même s'approvisionnait dans les fermes du voisinage, et les gens savaient, on voyait bien quand un fruit était mûr, quand un fruit devenait pourri et qu'il fallait le jeter, il fallait le consommer avant, ou quand le beefsteak commençait à sentir un peu. Bon, mais à partir du moment où c'est entre dans le produit industriel, on ne voit plus rien, c'est sous emballage. Et donc, comme nous avons des gens qui veillent sur notre santé, hein, les entreprises multinationales de l'agro-business, eh bien, il faut décider jusqu'à quand on peut vendre les produits et jusqu'à quand on peut les consommer. Donc, vous avez des dates de péremption. Hein, alors que si vous réfléchissez un petit peu, mais on vous apprend à ne plus réfléchir, c'est à ça que sert l'éducation nationale. Et donc, si on réfléchit un petit peu, on doit bien penser que ce n'est pas parce qu'il y a une date sur un emballage que le produit est consommable ou n'est pas consommable. Si vous pensez que vous avez acheté un truc fin d'us, qu'il a été décongelé, recongelé, mis au soleil, etc., quelle que soit la date, hein, c'est comme ça que j'ai eu une intoxication alimentaire avec de la mayonnaise. Bon, vous voyez, c'est pas... Mais on a perdu le contact de toute façon, et c'est évidemment... on ne peut pas y échapper. Et c'est ainsi, si vous avez vu, non pas le film de Cosima, mais un autre film très beau, fait par un Autrichien qui s'appelle « We Feed the World », hein, nous nourrissons, on voit comment à Vienne, chaque jour, on détruit de quoi nourrir Bombay avec en pain, hein, les cargaisons de pain qui sont parfaitement consommables, ça, qui sont brûlés, jetés, incendiés. Bon. Alors, on a évalué maintenant à peu près 40% de l'alimentation de la chaîne industrielle, 40% va à la poubelle. Ce qui représente, s'il y avait un truc dans le monde l'autre jour, une évaluation au niveau mondial, ça représente, je crois, plus d'un milliard de tonnes par an, ce qui, enfin, une équivalence, c'est monstrueux. Et 20% à peu près, en gros, hein, je ne vais pas dans le détail, mais 20%, ce sont les supermarchés qui rejettent ce qui est périmé. Hein, et les 20 autres %, ce sont les consommateurs, hein, parce qu'ils ont rempli leur caddie, ils ont mis ça dans le congélateur, puis ils ont laissé passer la date, etc. Et ça va à la poubelle. Bon. Alors, on est bien, effectivement, dans une société du gaspillage. Alors, cette culture, finalement, du tout jetable, hein, elle atteint tout, Et on a fini, tout est sujet à l'obsolescence. Hein, finalement, maintenant, comme disait Madame la présidente du MEDEF,
Parizeau.
Là, oui, Laurence Parizeau, n'est-ce pas? Tout est précaire dans la vie, l'amour, le travail. Alors pourquoi pas le travail, hein? Ben oui, pourquoi pas la vie, tout court, hein? Et par conséquent, effectivement, nous sommes tous précaires. D'ailleurs, nous sommes beaucoup moins compétitifs que les machines, et c'est pour ça qu'on nous remplace partout comme les machines. Même les profs bientôt vont être remplacés par les machines. Il y a des programmes prévus pour ça. Et par conséquent, eh bien, on aboutit à ce qu'a très bien analysé Gunther Anders, l'obsolescence de l'homme. L'homme n'est plus nécessaire, on n'a plus qu'à disparaître. Si l'on en croit le cinquième rapport du GIEC, ça ne va pas tarder. Hein? Bon, alors, comment lutter? Eh bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour ça qu'il faut renoncer. Ce n'est pas facile, bon, parce que vous avez bien compris qu'il y a des gros intérêts dans cette affaire. Hein? Monsieur Marie-Vincent Placé, sénateur d'Europe Écologie Les Verts, avait un beau projet pour légiférer en matière d'obsolescence programmée et introduire un volet dans la loi sur la consommation préparée par le ministre
Benoît Hamon.
Eh bien, c'est assez intéressant parce que tous les industriels disent « Mais non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Vous avez imaginé ça, ça n'existe pas. » Mais quand on dit, alors si ça n'existe pas, c'est pas grave, on peut légiférer, ça vous pose pas de problème. Ah ben, apparemment, ça leur pose quand même des problèmes. Ils sont montés au créneau et les lobbies sont intervenus pour que Benoît Hamon, en respectant sans doute les consignes du grand chef, pas de vague, donc c'est passé à la trappe. Non, pas de législation sur l'essence programmée. De quoi s'agissait-il? D'une des premières formes, toute simple, pour lutter contre l'obsolescence programmée, c'est les associations de consommateurs américaines qui ont commencé à lutter contre ça, déjà longtemps, et elles ont obtenu une petite victoire, quand même, en obtenant que les producteurs donnent des durées de garantie des produits. Donc l'idée était... très modeste, mais elle était d'allonger les durées de garantie de produits pour les produits électriques et électrotechniques, donc, au niveau européen, c'est 2 ans normalement, et de passer de 2 ans à 5 ans. Bon, ben, ça aurait été déjà apparemment une révolution. Et donc, et même le projet qui a été développé par les Amis de la Terre et par le think tank socialiste Terra Nova était de progressivement arrivé à 10 ans. Ils avaient dans leur carton d'autres éléments, obliger les producteurs à fournir des pièces détachées, qu'il y ait des stocks de pièces détachées suffisantes, etc. Bon, alors, les lobbies, ça existe. Ça existe, ce sont d'ailleurs les lobbies qui font les lois. C'est un secret pour personne, hein, sauf que pour ceux qui ne veulent pas le savoir. Et, bon, mais ce n'est pas le pire, en fait. Enfin, ce n'est pas le pire à un premier niveau. Hein. Il y a la complicité des consommateurs. La complicité des consommateurs. Et là, on en a des témoignages. J'ai évoqué tout à l'heure les téléphones portables. Eh bien, les gens mettent leur téléphone portable au rancard avant qu'il ait atteint sa durée de garantie de 2 ans, avant les 2 ans de durée de garantie, parce qu'il y a des nouveaux modèles qui sont sortis. Et là, on voit bien que les 3 formes d'obsolescence, obsolescence technique, obsolescence symbolique et obsolescence programmée, sont mélangées. On en a un magnifique exemple avec l'iPhone 5. L'iPhone 5 est un produit qui est techniquement un petit peu supérieur au produit précédent, l'iPhone 4, pas beaucoup, mais un tout petit peu. De toute façon, Apple fait une révolution tous les ans. Chaque nouveau modèle est une nouvelle révolution. Alors, on ne finit pas de vivre. Alors, c'est difficile. Comment voulez-vous qu'on fasse la révolution de la décroissance dans un univers qui est tout le temps en révolution? Bon. Donc, il faudrait faire la conservation de la décroissance. Il faudrait être des conservateurs face aux révolutionnaires que sont les industriels. Bon. C'était ce que pensait Jacques Ellul, d'ailleurs. Alors, cet iPhone, il est donc techniquement supérieur. Et il a un nouveau look, etc. Bon, c'est très in d'en avoir un. Hein. Et d'autre part, il n'est pas prévu pour durer éternellement. Hein, mais ça, personne n'aura besoin, n'aura le temps de s'en apercevoir, puisqu'il y aura eu une nouvelle révolution d'ici là. Et donc, et on voit, il y a vu des consommateurs, hein, conscients, organisés, et citoyens et intelligents, qui ont passé la nuit pour être sûrs d'avoir le lendemain à l'ouverture les premiers iPhones en vente. Alors donc, vous avez les consommateurs addicts, hein, les consommateurs totalement dominés, manipulés par la télé. Et puis vous avez une grande masse de consommateurs aussi complices passivement, hein, parce que, bon, alors quand vous avez vu le film, si vous avez vu le film de Cosima, la trame du film, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a son imprimante en panne, et à qui on lui dit, bon, ben, faut changer, faut le mettre à la poubelle, d'autant plus que les imprimantes, ça coûte vraiment pas grand-chose. Et lui, il est têtu et il veut absolument, il dit, il n'y a pas de raison, mon imprimante, elle est très bien, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas la réparer. Et à la fin, donc, avec persévérance, il finit par trouver un bricoleur, enfin, un hacker soviétique, enfin, russe, qui a compris qu'il y avait une puce qui était programmée pour que l'imprimante fasse 18 000 copies et qu'après ça, elle bloquait l'imprimante. Et donc, il enlève la puce, puis il la reprogramme, etc. Donc, moi, j'ai eu la même chose avec mon imprimante, mais je n'ai pas contacté le programmeur soviétique, ni enlevé la puce, d'ailleurs, j'en serais incapable, j'y comprends rien. Et puis, j'étais dans la campagne, et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai, pas par plaisir, hein, on m'a casé une nouvelle imprimante, beaucoup plus sophistiquée, qui fait à la fois photocopieuse, scanneuse, etc., et qui durera moins longtemps que la précédente. Bon, voilà, alors on est tous plus ou moins, mais je vous incite quand même à résister, hein, à ne pas faire comme moi. Moi, je suis trop vieux pour mener le combat, mais il faut le mener quand même. Et puis, alors, d'autant plus que bien, ça urge, parce que le gaspillage, c'est colossal. Hein. Nous consommons chaque jour 43 kilos de matières premières, hein, puisque notre mode de vie implique une consommation. Et nous rejetons 16 à 20 kilos annuellement de déchets électriques, électroménagers, etc. Alors, on peut se battre pour avoir une loi. Hein, le premier article de la loi était d'interdire l'obsolescence programmée. Alors, interdire, ça ne sert pas à grand-chose parce que c'est très difficile de coincer un industriel là-dessus. D'abord parce que les produits sont complexes. Vous ne pourrez jamais condamner un producteur de voitures en disant ma voiture, elle est programmée pour durer. Non, ce n'est pas la voiture qui est programmée pour durer 5 ans. C'est le remonte-glace qui est programmé parce que le donneur d'ordre, ils ont pris des engrenages en plastique qui coûtent moins cher que des engrenages en acier, etc. Mais bon, une voiture, ce n'est pas le remonte-glace. Donc, tous les morceaux de la voiture, le thermostat. Et si le thermostat pète, vous risquez le moteur risque de trop chauffer trop, etc. Bon, tous des éléments. Mais c'est à peu près impossible. Hein. Il faudrait faire des tas de procès. Puis, de toute façon, ce n'est pas moi, c'est des pièces que j'ai achetées. Ce n'est pas moi qui dis. Bon. Et donc, c'est très difficile. La durée de garantie, c'est déjà quelque chose. Il y a des moyens d'incitation. Si la répression ne marche pas, il faut aussi utiliser pas seulement le bâton, mais la carotte. Hein, mais pour ça, il faut avoir la volonté. Quand il y avait des verts au gouvernement en Allemagne, ils ont, dans ce sens, introduit un certain nombre de choses. C'était d'aller dans le bon sens. Inciter les entreprises, donc, non plus à vendre les instruments, les équipements, mais à les louer. Alors, ça change complètement la logique. Ça a été fait pour les photocopieuses Rang Xerox. Donc, la Rang Xerox fait son beurre, non pas en vendant des nouvelles photocopieuses tous les ans, mais en produisant une photocopieuse inusable ou qu'elle recycle indéfiniment et en faisant payer l'entretien et le loyer. Donc, son intérêt, c'est d'avoir des photocopieuses de ne pas dépenser pour la photocopieuse puisqu'elle gagne seulement sur la logique. Donc d'avoir. Et donc, ça nous amène à ce qui serait une véritable révolution, l'éco-conception des produits. Alors, l'éco-conception des produits, c'est aussi théorisé par l'écologie industrielle. Alors, c'est, ça implique trois choses. Ça implique que dès le départ, donc, on conçoit le produit comme évoluable. C'est-à-dire qu'on sait que, normalement, on peut penser que des savants géniaux vont trouver des perfectionnements, hein, et vont faire, on sait qu'il y a des, même pour les ordinateurs, chaque génération est plus puissante, etc. Donc on va faire des téléphones portables plus puissants, des ordinateurs plus puissants, etc. Mais ce supplément de puissance, hein, ça représente dans la conception de l'ordinateur ou de la pièce ou de la machine, etc., ça représente un tout petit quelque chose. Donc si la pièce est conçue dès le départ pour qu'on puisse modifier des éléments, et c'est ce qu'a fait Rank Xerox à un certain moment, conçue comme un jeu de construction, on change tel truc ou on ajoute telle chose pour faire donc une conception évolutive du produit, produit conçu pour évoluer. Deuxièmement, conçu comme ça, comme... pouvant être modifié sous forme de module, eh bien, on change seulement une partie, donc possibilité de réparer beaucoup plus facile. Hein, alors qu'à l'heure actuelle, on peut pas, c'est exactement le contraire de ce qu'a fait Apple en rendant impossible la dissociation entre le. Alors, si vous regardez, ça va très loin maintenant. Les prises, autrefois, les prises électriques, vous pouviez démonter, vous pouvez changer la prise, etc. Maintenant, c'est tout bloqué dans du plastique, vous ne pouvez plus rien changer, vous êtes obligé de couper le fil. Et puis, enfin, eh bien, si c'est décomposable, etc., quand c'est usé, trop, eh bien, c'est recyclable. On en recycle, on décompose tout et on recycle. Ce qui est maintenant, pour recycler les produits électrotechniques, etc., c'est. On recycle moins de 5%. Et ça coûte assez cher, il faut des subventions pour aider les entreprises qui font ça, pour décomposer, même si ces équipements contiennent des métaux rares, des métaux précieux, de l'or, du platine, etc., mais en micro-quantité mélangée avec d'autres trucs. Et l'idéal, donc, ça serait l'économie circulaire, théorisée par... Michael Baumgart, un Autrichien, ingénieur autrichien, bon, qui a écrit un livre qui a été un best-seller, qui s'appelle « Cradle to Cradle », hein, du berceau au berceau, et qui explique que la nature ne fait pas de déchets. Ben oui, c'est vrai. D'ailleurs, les Africains non plus, ils sont encore dans la nature, mais nous produisons beaucoup de déchets. Alors pourquoi ils ne font pas de déchets? Parce que tous les déchets d'une partie des trucs est recyclé par les autres. Hein. Vous avez donc dans la nature... des insectes, même scatophages. Hein? Scatophages, littéralement, c'est un beau mot grec, mais ça veut dire qu'ils mangent la merde. Hein? Bon, donc, voilà, on n'a pas besoin d'avoir... Et donc, tout est recyclé. Les feuilles mortes sont dévorées par d'autres types d'insectes. Vous avez... D'ailleurs, c'est ce qui entretient la vie des sols, hein, que détruisent les pesticides, qui détruisent les sols et qui les transforment en désert. Tous ces vers, ces termites, ces fourmis, et puis les petites bêtes surtout. Et donc, voilà. Mais ça ne peut pas se faire tout seul, parce que l'obsolescence programmée, comme je vous l'ai montré, c'est dans les gènes du système. Et donc, ça nous amène à la décroissance, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment lutter contre l'obsolescence programmée de manière vraiment efficace. Sinon, on peut faire effectivement du greenwashing, ce que font tous les ministères de l'écologie. Donc, on repeint en vert d'un côté, pendant que de l'autre côté, ça se barre dans l'autre sens. Donc, c'est des coups d'épée dans l'eau. Et il faut effectivement sortir de la société de consommation pour construire une société capable... comme toutes les sociétés, sauf la nôtre, capable de s'auto-limiter, hein, de renoncer à ce que les Grecs appelaient, était pour les Grecs l'horreur par excellence, l'hubris, la démesure qui nous mène à la catastrophe, retrouver le sens de la mesure, c'est-à-dire retrouver une forme de société frugale, ce qui non seulement n'exclut pas l'abondance, c'est une forme de prospérité, comme l'a théorisé mon collègue Tim Jackson, qui a écrit un très beau livre « Prosperity without growth », la prospérité sans croissance, hein, ou ce que j'appelle l'abondance frugale, hein, puisque la frugalité est la condition même de l'abondance, comme l'a très bien montré le grand anthropologue de l'économie Marshall Salins. Il n'y a d'abondance possible que s'il y a des limites. Parce que s'il n'y a pas de limites, c'est comme le tonneau des Danaïdes. Hein, si le tonneau n'a pas de fond, on peut toujours mettre de l'eau dedans, hein, mais on ne le remplira jamais. Donc on ne satisfera jamais nos besoins tant qu'il y aura de la publicité dont l'objectif est de nous rendre insatisfaits de ce que nous avons pour nous faire désirer ce que nous n'avons pas. Merci.
Mais merci beaucoup, Serge Latouche.